Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, midi une minute. Bienvenue à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. L'émission On en jase qui arrive avec le soleil, Pascal, qui sort. À l'heure actuelle, on est très heureux de ceci parce que c'est 22 degrés qu'il annonce aujourd'hui. Il a annoncé un 40% de probabilité d'averse, mais c'était surtout un dégagement en après-midi. Alors, ho, ho, ho!
Ben,
ça va être une belle journée!
Je te dirais, Jeff, qu'il y a quand même eu, je sais pas c'était quoi, là, un genre de rayon de pluie assez intense tantôt, là, sur un certain rayon de la ville de Québec. Puis moi, je me suis dit, merde, j'ai laissé ma fenêtre de chambre ouverte. C'est sûr que j'arrive. Et maintenant, j'ai une piscine à l'intérieur.
Non, tu vas être carré.
De chez nous. Hey, il pleuvait tellement. Pendant 15 minutes, t'as pas vécu ça?
Ben non, j'ai pas vu ça. Moi, j'étais dans le studio d'enregistrement en train de sortir des extraits.
C'est ça le problème. À 10h20 environ.
Ouais.
C'était.
Ben oui, parce que je vois ça, la terre dans le stationnement, ta barouette, il y a donc bien de l'eau.
Toutes les voitures sont rendues lavées.
Ah!
On n'a pas eu besoin de personne.
C'est parfait!
Mais c'est, moi, je suis
là.
J'ai l'impression que j'ai une piscine.
Ça. Yes!
Pour se remettre là-dedans, regarder la météo avant de partir de chez soi.
Oui, on n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix de surveiller ça, mais une chose est certaine, c'est que quand vous allez surveiller pour les prochains jours, vous allez voir que c'est ensoleillé, une petite baisse de température demain, 14 degrés, mais 18 degrés ensoleillés pour vendredi. Pour samedi, on parle déjà de 17 degrés avec alternance de soleil et nuages, donc pas de pluie à l'horizon à partir de cet après-midi jusqu'à dimanche. On vous présente aujourd'hui un bon bloc d'actualité municipale. Donc, ouais. Après le caucus avec Antonine Iacarini, Mathias Turcotte est allé à un point de presse du maire de Québec. Hey, imagine-toi, là, il ne sait pas pour qui va prendre entre le Canadien et l'Avalanche, chef de la Coupe Stanley.
Non. On avait réglé le cas hier.
Non, on avait réglé le cas hier. Comment, Bruno, là? Let's go, je vais te parler en chambre, là.
Monsieur Marchand.
Moi, c'est un ancien du patron Rocamado. Fait que quand on se parle en gars de patron, on se parle
c'est
par
Jeff
nos pronoms.
Puis Bruno.
C'est ça. Fait que là, Bruno, là, raconte-moi ça. La ville est canadienne. Bon, c'est réglé, mais on va en parler quand même. Mais on va parler de plein d'autres choses, dont justement ce bon bilan financier. On va également avoir Alicia Despins qui va être avec nous à la fin de la première heure. On va revenir sur la primeur qu'on a sortie hier pour Capital Mobilité avec Alicia Despins. Et on va aussi parler de Val-Bélair, projet de logement, 80 logements. Les gens disent « ça commence à être saturé à Val-Bélair ». Je les comprends, c'est pas facile la circulation là-bas. Puis, donc, les gens se posent beaucoup de questions. On va jaser de ça avec Alicia Despins, c'est
sûr. Oui, parce que c'est un projet immobilier quand même de 80 logements sur le terrain du restaurant Patate Plus. et c'est là où ça soulève des inquiétudes aussi.
Là,
tu dis, il va-tu avoir des impacts sur la circulation? Bien, clairement,
oui.
Le promoteur, lui, veut faire son projet, mais pour les gens qui circulent là à longueur de journée. On veut une étude indépendante là, sur la circulation et les mesures pour réduire la congestion.
Exactement, parce que on se souvient, du côté de Val-Bélair, on a annoncé en grande pompe des projets de transport en commun, notamment l'804 qui se retrouve là, le métrobus plus fréquent, etc. C'est parfait. Mais pendant que la ville faisait ça, la CAQ disait on ne fera plus de voies réservées.
Mm-hmm.
Fait que ça ne circule pas mieux. C'est ça le problème. Ça circule pas mieux.
On a des enjeux majeurs de circulation dans Québec, là, la capitale nationale et ses environs. Puis on construit un peu en silo. Est-ce que j'ai l'impression, je pense que je suis capable d'affirmer qu'il manque beaucoup de communication entre les divers projets et tout ça. Écoute, s'il y avait un poste là, à créer ou à recréer ou à travailler pour la ville de Québec, ce serait quelqu'un qui travaille 100% du temps sur la fluidité puis l'annexation des projets de transport.
Vraiment.
Pistes cyclables, voies réservées, RTC, la STL du côté de Lévis, donc la Société de transport de Lévis, tout ce qui est tramway, tout ce qui est... Moi, là, je te mettrais quelqu'un temps plein là-dessus, puis je pense qu'il manquerait
de... Je suis très d'accord avec toi, puis de toute façon, là, pour le développement de domicile, d'appartement, de condo, comme on veut avoir à Val-Bélair, moi, là, je privilégierais l'axe du tramway, là, pour commencer. Il faut densifier la ville. Après, on verra. Là. Mais là, de commencer à densifier comme ça nos banlieues, je suis pas très, très d'accord. J'ai hâte d'entendre Alicia Despins là-dessus, mais je suis pas mal convaincu qu'elle va être de notre avis. Et dans la deuxième heure du show, bon, on va parler avec Alex Aramé. Évidemment, le Canadien, ça commence seulement jeudi, mais les Golden Knights de Vegas et l'Avalanche, c'est ça, ça commence ce soir. Puis ça passe un peu sous le radar.
Ça commence ce soir.
Il y a Vegas contre Colorado, mais Canadien demain. Ça passe un peu sous le radar à cause de la folie du Canadien, mais c'est quand même le Grand Prix du Canada en fin de semaine à Montréal. C'est pas rien. C'est un méchant événement. On a ajouté des sièges. On pense recevoir plus de 100 000 personnes. Alors, c'est vraiment un bel événement. Donc, on va en parler avec Alex Laramé sans faute. Puis, je veux revenir sur Génération Trans. Bonne nouvelle, va être présentée à Québec. Je vous dis pas où, mais ça va être à quelque part proche d'ici.
Proche 17.
J'ai fait exprès pour parler en jargon proche. 17.
Il y a quelqu'un qui a voulu rattraper la balle en se disant qu'il faut avoir une discussion.
Oui, exactement. Je veux qu'on parle aussi du processus de fouille à nu dans nos centres jeunesse. Hier, j'ai parlé à beaucoup de gens. On m'a rassuré à cet effet-là. Donc, je veux en parler. On m'a rassuré pour la capitale nationale. Alors, je veux vous en parler de ça.
Hey, tu m'allumes sur quelque chose que j'ai vu dans les derniers jours puis j'avais mis dans ma petite poche arrière. J'aimerais ça qu'on en reparle aussi, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des centres jeunesse qui, je sais pas, tu sais, ça doit dépendre des jeunes puis des situations qui ont accès à leurs réseaux sociaux puis qui commencent à mettre ça sur TikTok. Je suis tombée là-dessus.
Hey, on va regarder ça plus tard.
Parfait.
Ben, comme on avait fait avec les prisons. Là.
Bon, ben regarde, Jeff,
on sortira des TikTok de centres jeunesse. Et on va terminer l'émission en parlant de Julie White, cette nouvelle candidate pour le Parti libéral du Québec dans Jean Talon. Vous la connaissez parce qu'on l'avait régulièrement en entrevue comme titre de directrice générale de Manufacturier Expo porteur ici au Québec. Et là, elle se relance en politique parce qu'elle s'était présentée en 2022. Mais avant tout ça, Pascal, et avant le caucus d'Antonine Iaccarini, quelles sont les manchettes principales dans l'actualité?
Il y a beaucoup de choses, mais je vais te parler de cet enlèvement-là qui a tenu tout le monde en haleine très tôt ce matin, donc à 8h30. On parlait d'un présumé enlèvement. Il s'était survenu en Beauce, donc à Scott. C'est un homme dans la trentaine qui a été localisé. Il est sain et sauf à Saint-Tite-des-Caps. Ce qu'on apprend, c'est que c'est un homme impliqué dans une organisation criminelle qui a été enlevé, ligoté, tabassé, mais par trois adolescents. Et ça s'est fait dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, événement qu'on nous, on a connu aujourd'hui. Selon les premières informations, c'est vraiment plusieurs individus cagoulés qui entrent de force dans une résidence, pognent la victime, a une arme à feu, force la victime à les suivre, envoie dans le véhicule, puis on prend la fuite. Fait qu'on roule, on roule, on roule. On amène l'homme dans la trentaine dans un chalet de Saint-Tite-des-Caps, puis il a été là, ligoté, tabassé. Coup de massue en passant, qui ont été donnés là, extrêmement violent. Dans le dossier, on dit que la victime aurait déjà été un membre des Dark Souls, c'est club-école des Hells Angels, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Mais il a changé ou aurait pu changer d'allégeance. C'est-tu pour ça là, qu'on a procédé au kidnapping et tout ça? Il y a eu une opération de ratissage et les policiers ont été capables. Et félicitations, là, la Sûreté du Québec qui a agi assez rapidement de mettre la main sur tout le monde. Ils seront rencontrés plus tard dans la journée, les trois hommes qui étaient avec la victime, qui sont détenus pour fin d'enquête. L'effet Christine Fréchette est bien réel. La CAQ gagne 5 points de pourcentage dans un nouveau sondage léger québécois. On s'approche d'une course à trois. Le Parti québécois, c'est toujours à 30 % au sommet. Une petite baisse d'un point depuis le dernier sondage léger. Parti libéral du Québec, on est à 28 % La CAQ ferme le podium à 22 % Pour le Parti conservateur, ben, c'est 3 points de moins et on retombe à 11 % seulement devant Québec solidaire qui ne bouge pas, là, qui est à 8 % Des agents correctionnels de plusieurs établissements carcéraux de la province qui ont refusé de rentrer au travail aujourd'hui. Ils se seraient rassemblés devant différents établissements du Québec. On veut mettre la pression sur la convention collective qui est échue depuis 3 ans. Donc, on a déserté les postes, dont ceux qui occupaient le quart de jour. Ceux qui travaillent la nuit seraient, quant à eux, restés en fonction. Autre grève, cette fois-ci, c'est pour les ingénieurs du gouvernement du Québec. Ça pourrait être pendant 24 heures à compter de minuit ce soir. Et la Ville de Québec aura bientôt 2 nouveaux conseils de quartier pour porter le compte à 32. C'est une requête officielle qui a été déposée en mars dernier.
Merci beaucoup, Pascal Séveille.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonine Iaccarini, segment du lundi au jeudi dans l'émission Nord Jazz sur Boulevard 102, de midi à midi 30. Antonine qui est à distance aujourd'hui. Anto, comment vas-tu?
Ça va très bien. Moi, j'ai eu la vague de pluie. Là. Je pensais qu'il y avait une tornade tantôt.
C'était violent.
Le ciel est devenu comme tout noir. Puis la dernière fois que j'ai fait une chronique à Boulevard et que le ciel est devenu noir de même, j'étais dans l'émission du retour et ça a coupé 52 fois pendant la chronique. Donc, j'ai eu un petit stress. Mais là, il fait un beau soleil. Fait que je vais pouvoir faire mon caucus avec vous autres en toute quiétude.
On est heureux. Antonine, une reine est née. Christine Fréchette a un effet sur l'électorat. Honnêtement, je suis pas surpris de ça du tout parce qu'on en parle depuis 2 semaines, moi et toi ensemble, puis avec Pascal. Elle fait bien les choses, elle est rassurante, et voilà que l'électorat se tourne vers elle, du moins en plus grande majorité que quand c'était François Legault.
Ouais, déjà, il y a un effet de nouveauté. Il faut savoir en politique, on dirait plus on connaît nos politiciens, ben moins on les aime. C'est comme ça, hein. La politique, c'est pas facile. Si c'était facile, ça se saurait. Il y a des décisions qui sont pas toujours populaires qu'on doit prendre. On fait des gaffes. Donc, quand on est nouveau, ben l'ardoise est propre. Puis, des fois, on entend des gens dire, voyons, la CAQ peut pas remonter. Les gens sont plus capables. Mais vous voyez, hein, quand on change de chef. Il y a vraiment la possibilité d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour une formation politique. Et je pense aussi au Parti libéral qui a changé de chef il y a quelques semaines également. Ben, ça, c'est comme si c'était un nouveau parti. Ça a changé d'administration. Puis même si les adversaires politiques vont essayer de vous dire c'est le même monde, c'est les mêmes ministres, c'est la bonne vieille CAQ ou ce que les conservateurs essaient de faire au fédéral par rapport au Parti libéral de Mark Carney, c'est le même monde, c'est le bon vieux Parti libéral du Canada. Ben, vous voyez, il y a quand même un effet qui est là. On a vraiment une course à trois qui est en train de se dessiner. Puis moi, ce que je retiens de ce sondage léger, là, qui met toujours le PQ en pole position, il faut le dire, là, qui réussit à se maintenir, c'est que tout peut arriver l'automne prochain. Il n'y a rien qui est fixe pour l'instant. Ça ne veut pas dire non plus que l'effet fréchette va durer jusqu'à l'automne. Mais on voit vraiment que c'est pas coulé dans le béton, loin de là pour l'instant. Si on regarde par rapport au dernier léger, on voit que la CAQ a pris 5 points supplémentaires. Le Parti libéral se maintient, puis le PQ a perdu un petit point. Mais quand on perd un point, je veux dire, on se concentre pas trop là-dessus parce qu'on est dans la marge d'erreur comme telle. Et c'est vraiment l'effet de la CAQ là, qu'on surveille. Qui est assez marqué depuis l'arrivée de Christine Fréchette, qui réussit son pari. Et là, ça, là, ces résultats-là, ça va l'aider à quoi? À recruter des candidats. Parce que tantôt, vous recevez une candidate là, qui va se présenter à la prochaine campagne.
Oui.
Mais des candidats qu'on voit à date, Parti libéral, Québec solidaire, PQ, Parti conservateur aussi, mais la CAQ, on n'a aucun nouveau candidat à présenter.
Ouais, il va falloir présenter un vent de renouveau. Antonine, satisfaction envers le gouvernement. Êtes-vous satisfait 47%, insatisfait 33%, neutre 20%? Quel revirement de situation, ça n'a pas de sens.
Écoute, les insatisfaits ont baissé de 33 points.
Aïe!
J'ai jamais, moi, je n'ai jamais vu ça.
Je suis sidérée parce que s'il y a une chose que j'aurais pas prévue, c'est bien ça, là. La CAQ, les gens disaient haut et fort être tannés, voulaient un vent de renouveau. C'était partout, il n'y a rien qui passait. Toutes les communications, même celles qui étaient quand même professionnelles, légitimes puis bien faites politiquement parlant, étaient tassées du revers de la main. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais
C'est vraiment
regardez
Christine
ces chiffres-là.
Fréchette.
Mais regardez ces chiffres-là, on peut se demander si M. Legault aurait pas dû partir un petit peu avant.
Ben,
Bon,
en
ça,
effet. Mais
on
ça
se le
veut-tu
dit
dire
souvent.
que ça a percolé chez les gens parce que les oppositions ont martelé ça, dire voyons donc, elle présente ça comme un nouveau gouvernement, c'est tous les mêmes ministres, toute la même gang. Mais coudonc, ça a percolé dans l'électorat, ce fameux nouveau gouvernement-là, mené
Oui.
par Christine Fréchette?
Absolument. Puis, tu sais, la communication politique. Ça ne peut pas faire des miracles. Il faut que ce soit basé sur la réalité. Puis je pense que si ça fonctionne en ce moment, c'est parce que c'est basé sur une certaine réalité. Oui, c'est la même équipe, même s'il y a eu des changements au Conseil des ministres. Mais j'ai l'impression que les gens constatent de façon très, très évidente la différence d'approche entre une Christine Fréchette et un François Legault. J'ai l'impression aussi que le contexte mondial, le contexte canadien, ouvre la porte à ce que les électeurs aient davantage envie de politiciens un peu plus calmes. Donc, on ne cherche pas nécessairement la ligne de com' assassine puis les effets de toge. On veut quelqu'un qui démontre de la compétence, un peu nuance aussi. Mais attention avec la nuance. Puis c'est là que j'ai un avertissement à faire parce que pour la CAQ, ça va bien, mais pour les libéraux, il y a des drapeaux jaunes. En ce moment, c'est
Tu le
inquiétant
dis,
pour
toi.
Charles Millière. Donc, si on regarde qui ferait le meilleur premier ministre, Charles Millière n'est qu'à 15 % il est en baisse depuis le dernier léger, alors que PSPP et Christine Fréchette sont à 22 et 20. Bon, c'est pas extraordinaire non plus, là. Moi, je vois que les partis sont plus populaires que leur chef en ce moment. Mais pour M. Millière, qui vient d'arriver, qui a fait une arrivée qui était correcte, qui avait des bons résultats, on voit qu'il perd un peu déjà de la vitesse. Et là, c'est là que je veux vous parler de nuances en politique. Parce que moi, j'aime ça, la nuance. Mais à un moment donné, il faut quand même être clair sur un certain nombre d'enjeux. À 15 milliards que les gens voient comme meilleur premier ministre, je commence à me demander si M. Millard n'a pas raté en quelque sorte son atterrissage. Ça ne veut pas dire qu'il est trop tard, hein, les campagnes électorales, ça compte également. Mais hier, il a donné encore un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Okay? C'était hier la sortie du rapport sur Churchill Falls, on le sait, Terre-Neuve, cette entente de principe entre Québec et Terre-Neuve sur l'électricité. Et écoute, il a écrit un long tweet, là. Je l'ai lu 4 fois. Okay? Je me disais, what's your point? Tu sais, quand tu dis, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Et là, il nous disait qu'il avait demandé une rencontre avec Mme Fréchette qui attendait toujours une réponse. Okay? Une rencontre pour faire quoi, pour dire quoi, je ne sais pas. Il disait qu'il fallait faire preuve de leadership et de transparence. OK. Je ne vois pas en quoi le gouvernement n'a pas fait preuve de leadership et de transparence là-dedans dans ce dossier-là.
Ben, moi non plus. Honnêtement, François Legault, si on remonte à l'heure, François Legault, il avait été très transparent sur la place publique, a expliqué exactement qu'est-ce que cette entente-là donnerait aux Québécois. Et là, Christine Fréchette, pas plus tard qu'hier en entrevue, elle a dit « j'en ferai pas de concession ». Fait que, bon, c'est transparent pour moi.
Ben, c'est transparent. Puis pour ce qui est du leadership, ben, je m'excuse, mais c'était une priorité de M. Legault. Il a poussé autant qu'il pouvait pour que ça soit fait. Et je m'excuse, mais il restait encore plusieurs années à cette entente-là. Donc, je lisais, puis je me disais, ben là, rendu là, écris rien. T'sais, si t'as rien à dire, tu sais, des fois, là, le gouvernement fait quelque chose, puis c'est bien correct. C'est bien correct aussi comme opposition de ne pas essayer
ouais,
de trouver une
débite. Au lieu d'être une opposition qui dit bravo au gouvernement, puis jouer au cheerleader, tu dis rien dans ce temps-là.
Ben c'est ça. Fait que, bref, je regardais ça puis je me disais, c'est assez symptomatique d'un manque de clarté. Puis je pense que oui, les gens veulent des politiciens plus calmes en ce moment, mais ils ne veulent pas des politiciens, et je ne dis pas que c'est le cas, mais ils ne veulent pas des politiciens vides. Ils doivent faire attention pour ne pas projeter une image de politicien qui donne des phrases creuses, mais qu'on ne comprend pas c'est quoi le fond des choses. Ça prend une certaine clarté. Puis il faut aussi faire un peu de politique. Monsieur Milliard s'est fait enfiroiper la première semaine avec les questions de langue. Bien, lui aussi, il faut qu'il se mette un petit peu en mode attaque. Là. C'est bien beau la politique autrement, mais les gens doivent comprendre c'est quoi la différence entre ton offre politique et celle des autres. Donc, drapeau jaune pour le Parti libéral. C'est pas des bien bonnes nouvelles non plus, ce sondage-là, pour Éric Duhaime, là.
Hey non, justement, je voulais t'en parler parce qu'il est le chef, je vais le dire comme ça, dont les gens ont l'opinion la plus défavorable. Il touche au-dessus de 60 %. Et là, le PCQ qui retombe dans vraiment un parti régional Chaudière-Appalaches à 11 % des intentions de vote, la pente m'apparaît impossible à remonter.
Puis surtout quand tu dis, puis qu'on entend Antonine dire, puis qu'on voit les résultats dans le sondage, que le chef, c'est super important pour le parti.
Exactement.
Il y a des questions à se poser.
Ben, en fait, ça dépend toujours des objectifs. Moi, je pense qu'Éric Duhaime, son objectif pour la prochaine campagne, c'est pas de gagner le gouvernement, c'est de faire son entrée et de pérenniser, donc rendre plus permanente son offre politique, son parti politique. Il a réussi à rester pertinent en n'étant pas à l'Assemblée nationale. C'est une force politique incontournable maintenant. C'est très réussi pour lui. Mais éventuellement, il va devoir se poser des questions. Parce que, oui, les gens veulent... Moi, quand je pose la question à... Il y a 80 % du monde à qui je parle qui dit que ce serait bien quand même qu'il y ait quelques députés du Parti conservateur, même si les gens ne sont pas conservateurs comme tels, ne serait-ce que pour la diversité d'opinion, puis d'avoir une représentation d'un quasiment 15 % de gens, là, ça rebaisse un petit peu, mais de 15 % de gens dans leur élection qui ont voté pour lui, là, donc c'est important. Mais en même temps, les gens aiment ça gagner. T'sais, voter pour des partis d'opposition, ça arrive, là, les gens font ça, mais il y a quand même toujours une part de vote stratégique. Puis là, les gens se disent, OK, mais moi, si je veux battre tel parti, c'est qui mon meilleur parti pour lequel voter? Tu sais, il n'y a pas juste les valeurs là, qui drive les intentions de vote, il y a aussi la stratégie. Donc, si les gens ont l'impression que ça ralentit puis qu'il n'y a pas de possibilité pour M. Duhaime d'avoir ben, soit le gouvernement ou vraiment un groupe fort à l'Assemblée nationale, ça se peut que certains décident de miser sur un autre cheval. Puis, la deuxième question qu'il va devoir se poser, c'est éventuellement... Est-ce que je suis le meilleur chef pour ma formation politique? Il a fait tout un travail. M. Duhaime travaille très, très fort. Moi, je n'ai pas énormément de récriminations à lui faire. Mais pour monter à la marche supérieure après, quand on voit à quel point on polarise dans la population, ben, c'est des questions à se poser. Puis pour l'instant, il n'y a personne qui, en tout cas, à moins que vous ayez des idées, moi, je n'ai pas d'idée d'un autre conservateur qui pourrait prendre le relais.
Non, vraiment pas.
Donc, il va falloir qu'il travaille aussi, puis s'il ne travaille pas juste pour son intérêt personnel, mais celui aussi de son option politique, qu'il mette des gens de l'avant, des candidatures intéressantes qui pourraient éventuellement aussi être une relève pour lui.
Oui, non, t'as raison. Puis, tu sais, pendant que tu parlais, je suis allé voir sur Québec 125, parce qu'avec des nouveaux sondages, ça bouge tout le temps. Et je suis allé voir des 4 circonscriptions que moi, je regarde comme clés pour le PCQ. Et il y en a 2 là, qui viennent de perdre là, aux mains du PQ, c'est-à-dire Charlebourg et Lévis. Pour ce qui est de Lapeltrie et Chauveau, ils les gardent encore, mais on voit que autant le PQ que le PLQ viennent le chauffer davantage. Alors, tu sais, dans ces fameux votes à 3-là, ou à un moment donné, tu vas choisir quelqu'un justement pour gagner. Le PCQ va être dans le trouble tantôt, là.
Bien, écoute, ça dépend aussi. Il y a un autre facteur. Les chefs, ça pèse lourd dans la balance, les bannières politiques, mais il y a aussi quand même un petit pourcentage qui est attribuable aux candidats. Donc, si M. Duhaime présente des bons candidats dans certains comtés, ça peut faire bouger la balance. C'est sûr qu'on entend la rumeur de Gilles Lehouillier, là, tu me parlais de Lévis.
Ouais.
Je ne sais pas si ce serait bien accueilli ou pas. Monsieur Lehouillier s'est fait élire autant comme autant quand il s'est présenté comme maire de Lévis. Il était apprécié, même si il y a des problématiques financières maintenant qui sont mises en lumière. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être une candidature vedette quand même.
Oui, en effet. Ben écoute, les gens de Laval, on les interviewait dans un stationnement après que la femme de Gilles Vaillancourt ait flushé des liasses d'argent dans les toilettes. Puis ils disaient, bon, mère, la mère Vaillancourt, j'ai pas, mes taxes sont pas élevées. Fait que ça se pourrait qu'il vote pour Gilles Lehouillier aussi.
Oui, des fois, ça peut un peu nous décourager. Puis dans son âge, dernier petit commentaire, c'est sur QS, là, qui encore une fois, bouge pas vraiment. Malgré quelques bons coups, ils ont réussi à faire parler d'eux dans les dernières semaine avec les impôts des riches et aussi la question des féminicides. Mais pour l'instant, ça ne change pas la donne.
En effet, Antonine Iacarini, Pauline Marois veut changer le monde. On l'écoute.
Avec mon conjoint, on a réfléchi depuis l'automne dernier. Hein, c'est pas la génération spontanée. Et puis, je me suis dit, il faudrait aborder le tout d'une façon plus globale, avec une véritable volonté politique et départisaniser un peu cette question-là. C'est comme ça que vous retrouvez dans les signataires Michel Courchesne, Françoise David, Marguerite Blais, Véronique Yvon, qui, dans le fond, disent oui à ce sommet. Oui, à cette idée de nous réunir.
Pauline Marois marchait avec son conjoint dans Montréal, Antonine, puis crime, est tombée sur des itinérants. Hein? Elle a vu ça pour la première fois de sa vie, puis là, elle s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ah! On va réfléchir. Une tonne d'anciens politiciens là, qui sont pas branchés du tout sur le monde à l'heure actuelle, on dit « Hey, on va réfléchir. On va faire un sommet sur l'itinérance. » Ben Pauline et tes petits amis, ça s'est fait, le sommet sur l'itinérance en 2024. Puis là, on est dans le plan d'action. Puis on crée des programmes de logement supervisés. Puis on a amélioré P38 pour prendre des itinérants en toxicomanie puis les amener à l'urgence psychiatrique puis les amener en thérapie. Puis on créer plus de logements abordables et sociaux dans les grands centres urbains. Hé, hey, on est en action, Pauline! Pourquoi faudra encore réfléchir?
Oui, je comprends ta réaction et tu as raison hein, qu'on est rendu aussi à agir, mais moi, j'avoue avoir un petit faible pour les grandes messes, OK? Puis là, c'est là que je me fais traiter de vieille parce que le PQ, c'était comme un running gag. Ça a toujours été... Il collait des sommets, des grands rendez-vous,
colloques.
On fait de la réflexion. Mais un n'empêche pas l'autre en passant, parce que c'est vrai que c'est des enjeux, ce sont des enjeux qui demandent une coordination. T'sais, tantôt, je vous écoutais parler de mobilité à Québec. Là. Je vous disais, c'est mal coordonné. Ben, puis là, on se dit, il faudrait réfléchir ça dans une globalité. Mais c'est vrai pour plusieurs enjeux, soit dit en passant. Puis je suis la première à appuyer certaines de ces idées-là. Sur l'itinérance, je suis d'accord avec toi. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Puis je comprends l'objectif qui est de mettre l'enjeu à l'agenda électoral. Parce que là, on veut que les partis se commettent. Là, vous allez voir ça là, dans les prochains mois, là. Hein, ça, ouais, chacun
ben
va
là,
pousser sa priorité.
T'as déjà le PQ qui s'est commis en disant 50% moins d'itinérance, on va continuer à pousser dans l'optique des logements supervisés, puis de créer justement avec ces logements supervisés-là des espèces de quartiers ou des résidences comme les HLM qui a un parc dans le milieu, là, que ça va
bien,
être des
là.
Itinérants avec des services sociaux. Moi, je trouve que c'est une super belle proposition.
On est d'accord avec ça, mais tu sais, il y a quand même des choses qui ne sont pas réglées. Puis tu sais, je pense notamment à la question de qui est responsable de quoi. C'est dans plusieurs ministères et c'est dans plusieurs paliers de gouvernement.
En effet.
Les municipalités, ça fait plusieurs années qu'ils disent qu'ils sont un peu pris avec ça, mais qu'à la base, c'est même pas supposé d'être eux. Mais il y a ça.
Il a commencé à pleuvoir. cette fois.
Antonine a coupé, on va essayer.
Coupe son écran d'un coup que la vidéo, si ça demande moins d'Internet, on va peut-être récupérer Antonine.
Ça a bien l'air qu'on a perdu notre chère Antonine.
Est-ce que tu voulais que je l'appelle?
Oui, ouais, appelle-le donc, on finit ça par téléphone. Donc, on parlait justement de sommet et de sommet demandé par l'itinérance par Pauline Marois. Puis, en attendant également, je vais vous faire écouter... non, je vais attendre Antonine. On va parler aussi, je vais vous mentionner qu'il y a évidemment l'UMQ, c'est-à-dire l'Union des municipalités du Québec, donc l'ensemble des maires, qui demande aussi un sommet des États généraux concernant la fiscalité et les infrastructures. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on vous a fait jouer l'extrait de Monique-Jérôme Forget qui parle qu'il n'y aura plus d'eau pour nos petits-enfants. Et également, y a une demande aussi en ce qui a trait à des sommets ou des États généraux parce que il faut vraiment, vraiment, vraiment... réfléchir au niveau du Québec, ça serait dur de passer à l'action. Donc, évidemment, là, on demande aussi là, des états généraux là, du côté... laissez-moi le trouver. Donc, du côté de la CSQ en éducation. Mais encore là, en éducation, on connaît un petit peu là, la problématique concernant justement le manque de main-d'œuvre et la centralisation. On revient en Ténin. Hey, Charanto, t'avais perdu!
Coudon, y a-t-il une tornade?
D'après c'est exactement moi, ce que j'ai dit. D'après moi, il pleut Sainte-Foy.
Hey, Anto, on continue dans le sujet, puis je veux te parler parce qu'il y a trois sommets qui sont demandés. Le deuxième, c'est les municipalités avec les infrastructures et la fiscalité. Je laisse entendre Samuel Poulain ce qu'il avait dit à sa sortie, justement, du colloque de l'Union des municipalités la semaine dernière.
Mon constat, de mon côté, là, c'est réellement de trouver des solutions sur le coût des infrastructures. J'arrive du ministère de l'Économie. Nos entreprises québécoises du secteur privé veulent faire affaire avec les municipalités, veulent faire affaire avec le gouvernement du Québec, mais tous les deux, on doit travailler sur l'enjeu des coûts. Alors, avant même de transférer de l'argent aux villes, on se doit de se questionner.
Anto, Samuel Poulain a dit, moi, avant de commencer à faire des programmes où on va aller taxer davantage les gens, on va s'asseoir et on va regarder à réduire les coûts des infrastructures. Les maires, ils veulent-tu un sommet juste pour pouvoir nous taxer davantage?
Non, je pense pas. Puis justement, quand j'écoute ça, dire avant de penser à monter les taxes, on doit travailler sur les coûts. Oui, mais justement, il faut asseoir tout le monde autour de la table. Il y a quelque chose qui marche pas hein, avec la fiscalité des municipalités. Puis entre la relation entre le gouvernement du Québec fédéral et municipal, les municipalités sont pas... les pouvoirs sont pas clairs. Le gouvernement traite les municipalités un peu comme une partie prenante comme une autre. Il y a les OBNL, il y a les municipalités, il y a les groupes communautaires, il y a le patronat. C'est pas ça, les municipalités. Fait que moi, je pense que c'est justifié, à un moment donné, de faire une grande discussion. Est-ce que ça va mener à des hausses de taxes? Ben, si les gens trouvent que c'est pas une bonne idée, ils vont y aller au sommet, puis ils vont expliquer puis exposer pourquoi c'est pas une bonne idée. Avant d'arriver avec des solutions, béton, faut prendre le temps de se parler. Il y a aussi la CSQ qui demande des états généraux sur l'éducation. Encore une fois, l'éducation, sujet super important, multi-dossiers qui touchent à plein de choses en même temps. On demande beaucoup, beaucoup de choses à nos écoles. Hein. Il faut que je fasse la santé publique, la prévention, le travail social, la sécurité publique... Moi, je trouve qu'on serait dû pour ça. C'est juste que là, je regarde toutes les demandes d'États généraux, puis je me dis, ça va falloir faire un calendrier, là, la gang, parce qu'on va manquer de centre des congrès pour recevoir tous ces sommets-là. Évidemment que la campagne électorale s'en vient et que les partis vont prendre des engagements dans ces dossiers-là. Et je constate que la CAQ, ce n'est pas leur bague de faire des États généraux puis des grands sommets. Ils aiment ça faire des petites annonces ciblées. Sont bons en communication politique. Là, dans la dernière année, certains diraient un peu moins, mais c'est plus ça leur style. Mais à un moment donné, je pense que pourquoi il y a autant de demandes d'États généraux puis de sommets, c'est parce qu'on n'en a pas fait assez dans les 8 dernières années. C'est un équilibre. On ne peut pas juste
Ouais, mais je t'emporte à foi avec toi. Moi, je pense qu'on en a fait, mais on n'a juste pas fait assez d'actions qui en a découlé. Je vais te donner l'exemple en éducation. On a rencontré les dirigeants des centres de services scolaires, on a rencontré les enseignants, on a rencontré les directions scolaires. Puis un des constats qui est ressorti, c'est de décentraliser le pouvoir. Puis Bernard Drinville a fait complètement le contraire. Il a centralisé le pouvoir. Puis moi, je suis convaincu que c'est là la problématique. Fait que c'est pour ça que moi, je suis tanné de ces états généraux-là.
Quand on fait des réflexions, il faut que les gouvernements les écoutent.
Exactement.
T'as absolument raison. Mais en même temps, le petit travail en silo, là, puis chacun fait des...
sais, il y a beaucoup de programmes, il faut le dire, là. Le gouvernement annonce un programme, puis quand vient le temps d'appliquer sur le programme puis de le déployer, ça ne marche pas en tout avec le terrain. Donc, moi, je pense qu'on peut faire mieux. Il faut trouver le juste équilibre entre des grands sommets de réflexion avec tout le monde autour de la table, puis des petites actions ciblées. T'sais, tu comprends, il y a comme un équilibre qu'on n'a pas encore trouvé, j'ai l'impression. Puis pour ce qui est de l'itinérance, ben écoute, moi je pense que ça doit rester un enjeu de campagne, que ce soit pour des états généraux, un sommet ou d'autres actions, il faut maintenir la pression, parce que c'est un enjeu qui malheureusement, c'est rare que c'est dans la priorité, dans les trois premières priorités d'un gouvernement, mais quand tu habites dans les municipalités où tu vois la situation se dégrader, je pense qu'il faut maintenir la pression puis que ce soit un enjeu de campagne.
Ah, je suis très d'accord avec ceci, mais justement, peut-être je termine là-dessus. Moi, la campagne électorale, je le vois comme les partis politiques qui vont se positionner. Puis là, je vais reprendre les trois thématiques qu'on vient de parler, les demandes d'États généraux. Éducation, itinérance, fiscalité et infrastructure pour les municipalités. Puis moi, je m'attends à ce que les partis politiques se positionnent. Fait que c'est pour ça que des états généraux, moi, pour le moment, je vois pas d'avantage. Je vois bien plus un avantage à demander aux partis politiques de se positionner.
Oui, mais tu sais, moi aussi, je t'emmène là-dessus, mais des fois, les partis politiques, surtout ceux qui n'ont pas accès à des ministères là, qui sont dans l'opposition, ils vont prendre des engagements avec leur niveau de connaissance, mais c'est bien aussi de se nourrir de quelque chose et du terrain. T'sais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de sain dans... Puis ils peuvent faire des rencontres, mais d'avoir une réflexion qui est poussée pour que les plateformes électorales soient bien faites également, puis que ce ne soit pas des engagements sur le coin de la table qui flashent là, quand on fait une annonce. En tout cas, bref, on n'a pas réglé
ça. Non, on n'a pas réglé ça, en effet, mais je me dis, si tu es un bon politicien d'opposition... T'as pas besoin d'attendre un état général. Prends ta petite valise, prends tes pieds, puis va rencontrer les gens sur le terrain. Puis là, tu vas pouvoir proposer tes pistes de solution. T'sais, vas-y rencontrer, puis là, je le nomme, là, Éric Boulay à l'Aubrivière. Vas-y rencontrer l'organisme en itinérance à Montréal, en Abitibi-Témiscamingue. Va dans les écoles, va parler à des directions, va parler à des enseignants. Il n'y a rien qui t'empêche ça pour pouvoir faire ta propre opinion, justement. Puis peut-être bien innover puis sortir des sentiers battus.
Je suis d'accord avec toi. On termine sur un accord. Bravo.
C'est malade, c'est magique. Antonine Iacarini, on se parle demain?
À demain.
Hey, salut, merci beaucoup. Antonine Iacarini, que vous pouvez entendre sur nos ondes de midi à 12h30 à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. On se fait un gros bloc d'actualité municipale. Retour, Pascal CV.
Oh oui, parce qu'il y en a.
OK, oui. Donc, bloc nouvelle avec Pascal CV. Mathias Turcotte qui revient d'un scrum, c'est-à-dire une conférence de presse improvisée du maire Marchand. Et Alicia Despins qui sera là également pour sa chronique politique municipale. On va jaser de Québec à l'émission On en jase.
Ce qui vient de rentrer sur les réseaux routiers, Jeff, par exemple, c'est un incident sur Dufresne-Montmorency-Est à la hauteur du boulevard Henri-Bourassa. Il y a une voie de gauche qui est complètement bloquée. Il y a des débris. Faites attention. Oui. Je sais pas ce qui se passe sur les réseaux routiers ces temps-ci, mais de la grenaille, de la cochonnerie.
Vraiment?
Il y a un sac de chips qui m'a percuté le pare-brise avant aujourd'hui, puis je me suis dit, Colin, chance, c'est pas quelque chose de lourd.
C'est-tu des chips all dress au moins? C'est mes préférés.
T'as pas eu le temps de voir là, ça. Mais tu fais un saut pareil.
Mais on va demander à Mathias Turcotte, c'est quoi sa sorte de chip préféré. Et en passant, non, on ne fera pas jouer la chanson de Max Larouche midi. On vous épargne.
Bon, franchement, pauvre petit. Ça a marché jusqu'à maintenant, ça fonctionne.
Oui, dans des commentaires comme le petit Jérémy avait du talent.
Jean-François, va-t'en en pause. Va-t'en en pause. Va-t'en en pause.
Est-ce que Max n'a pas eu son rêve d'enfant?
Va-t'en en pause.
On en jase sur Boulevard 102.
Pas.